Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotech.
Et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Hélène Dumas, docteure en histoire à l'EHESS, pour la sortie de son livre « Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda » aux éditions du Seuil, dans la collection « L'univers historique ». Vous avez écrit ce livre à partir de votre thèse de doctorat, qui a été soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est donc le fruit d'un long travail sur le terrain. Vous vous êtes rendu régulièrement au Rwanda entre 2004 et 2013. Vous avez assisté au procès, vous avez rencontré les témoins, les survivants, mais aussi les bourreaux. Et vous avez concentré votre étude sur une commune, Chiorungi, qui se trouve au nord de Kigali.
C'est bien ça. Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai choisi de rentrer dans l'histoire du génocide des Tutsis à travers les récits qui étaient portés devant les juridictions Gacaca, qui sont donc un système judiciaire qui a été mis en place par le gouvernement rwandais à l'orée des années 2000, et qui présente cette particularité d'être une justice de proximité, tout comme le génocide des Tutsis d'ailleurs fut un génocide d'extrême proximité. Et les juges de ces juridictions étaient eux-mêmes des voisins, et la plupart du temps eux-mêmes des rescapés du génocide ou des témoins du génocide. C'était donc une justice de l'entre-soi qui mêlait donc les récits des bourreaux, des rescapés, mais aussi des témoins, et parfois des gens qui avaient tenté de sauver leurs voisins Tutsi. Et sont donc ces récits que j'ai choisi de prendre au sérieux pour écrire une histoire locale à Chiorungi, donc une commune à une dizaine de kilomètres de Kigali, pour voir les mécanismes concrets d'exécution du génocide.
Mais peut-être avant d'entrer dans cette micro-histoire, je ne sais pas si on peut employer ce terme, est-ce que vous pourriez, Hélène Dumas, revenir sur l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda qui a eu lieu il y aura 20 ans, en avril prochain, une histoire, comme le rappelle Stéphane Audouin-Rousseau qui a préfacé votre ouvrage, dont on ne connaît bien souvent en France finalement que les grandes lignes et dont il faut toujours rappeler les chiffres notamment, c'est-à-dire entre 800 000 et 1 million de personnes qui ont été assassinées avec une violence extrême en 3 mois à partir de ce 7 avril 1994.
Oui, en effet, c'est le dernier génocide du XXe siècle et également le moins connu parce que d'abord l'historiographie est encore naissante sur cet événement puisque le recul est relativement court, et puis aussi parce qu'il a fait l'objet de beaucoup de clichés, notamment parce qu'il s'est déroulé en Afrique et qu'en Afrique tout semble simple dès qu'il s'agit d'ethnie, et qu'à l'époque il a été présenté comme une banale guerre interethnique entre Hutu et Tutsi qui se seraient entre-massacrés. Eh bien, ce sont véritablement des logiques d'extermination très précises, comme celles que l'on peut vérifier dans d'autres épisodes historiques, que ce soit la Shoah ou le génocide des Arméniens, qui ont été mis en œuvre contre la communauté Tutsi du Rwanda. Et d'abord, vous avez rappelé les chiffres, en effet, avril-juillet 1994, 1 million de morts, c'est un génocide d'une fulgurance extrême, qui donc pose d'emblée la question de son efficacité. Comment a-t-on pu tuer autant de personnes en un temps aussi bref? Ça n'a pas été une brusque flambée de colère populaire, contrairement à ce qu'on a pu dire à l'époque, mais au contraire, c'est un génocide qui s'inscrit dans une histoire longue. Donc je ne vais pas revenir ici sur l'histoire depuis la colonisation, mais ne serait-ce que pour dire aux auditeurs que, loin de paraître naturel, les communautés, entre guillemets, Hutu et Tutsi, sont des créations politico-idéologiques qui date de la colonisation, et que ces communautés ont été manipulées à des fins politiques à partir de l'indépendance, et que les massacres de Tutsi n'ont pas brutalement commencé en 1994, qu'il y en a eu en 1959 et en particulier entre 1963 et 1964. Et peut-être ajouter qu'à partir de 1990, donc les descendants d'exilés Tutsi des années 60 se sont regroupés au sein d'une formation politico-militaire, le Front Patriotique Rwandais, qui a déclenché une offensive en 1990. Et la préparation matérielle et idéologique du génocide des Tutsis va prendre corps dans ce temps de la guerre.
Pendant
les 4 ans. Les Tutsis vont être considérés comme des ennemis intérieurs et des ennemis irréductibles, en raison précisément de cette idéologie raciale qui les rapproche des combattants du FPR. et toute dimension politique étant exclue, et seule la dimension raciale prévalant dans la propagande et l'idéologie qui préside à ce génocide.
On va revenir peut-être un peu plus sur votre livre après ces explications. Le matériel de recherche sur lequel vous avez travaillé est principalement oral. Vous avez, notamment, vous l'expliquiez, emmagasiné des archives sonores, des procès auxquels vous avez pu assister et dans lesquels se rejouaient parfois des scènes du génocide. Ça a été vraiment le matériel principal?
Oui, c'est une originalité pour un travail d'historien mon travail mêle aussi de l'anthropologie, puisque j'ai observé ces procès. Alors le rassembler des archives orales, c'est pas une nouveauté totale, mais dans ces interactions, en revanche, oui, j'ai travaillé sur des archives judiciaires, mais des archives judiciaires vivantes. D'où le regard anthropologique, puisque j'ai pu regarder la manière dont les gens bougeaient dans cet espace judiciaire si particulier, comment se déroulaient les interactions entre les victimes, les bourreaux et le public. Et effectivement, c'est cette matière vivante qui forme la majorité de mon corpus. Et c'est aussi, une chance de pouvoir encore au Rwanda aujourd'hui travailler sur une parole qui est vivante. Mais je voudrais ajouter que c'est une parole qui s'est dite en Kinyarwanda, la langue du Rwanda, et qui est d'une langue, et les discours sont d'un degré d'élaboration extraordinaire. C'est une langue très belle, et dans les procès, les gens font preuve d'une très grande réflexivité sur leur propre expérience, ce qui en fait donc un corpus extrêmement riche et très intéressant.
Et complexe apparemment, parce que vous insistez sur la question de la langue dans votre livre, et on le voit, il y a actuellement à Paris le premier procès pour complicité de génocide, et on voit à quel point la question de la langue est cruciale pour l'interprétation des témoignages.
Oui, tout à fait. Alors le procès qui se déroule à Paris est vraiment l'exact inverse des Gachacha, puisque...
Voilà, justement, peut-être, je vous interromps, mais... pour les auditeurs, comment expliquer ce que sont ces tribunaux de village, donc, qui ont existé de 2005 à 2010, par rapport aux procès nationaux ou internationaux qu'on connaît donc actuellement à Paris?
Oui, alors la justice du génocide a été principalement prise en charge au Rwanda par ces juridictions de proximité, dont aucun des acteurs n'est issu de la profession juridique. Personne, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge professionnel. Les juges sont élus au sein des communautés, donc c'est une justice populaire de l'entre-soi, puisque ce sont les acteurs du génocide eux-mêmes qui jugent les autres acteurs du génocide.
Et qui sont à quelle initiative ?
À l'initiative du gouvernement rwandais, pour justement rapprocher le crime des acteurs. Donc c'est une prise en charge donc par la population de son propre passé. Entre soi aussi, parce que les gachacha ont lieu sur les lieux du crime. Ont lieu sur dans les collines, dans les quartiers, très proches parfois des mémoriaux, des fosses communes. Donc on est dans une inscription topographique très proche du crime. Ce qui n'est évidemment pas le cas ni de la justice pénale internationale, ni du procès qui a lieu en ce moment à Paris. Les Nations Unies ont mis en place à la fin 1994 un tribunal pénal international pour le Rwanda, qui n'est pas situé à Kigali, mais à Arusha en Tanzanie. Donc son siège est quand même relativement éloigné du théâtre des faits. Et les juges de cette juridiction ne se sont que très peu transportés sur place, donc ils ne connaissent pas les lieux, connaissent évidemment pas la langue, parce que j'ai oublié de préciser que les gachacha évidemment ont lieu en Kinyarwanda, et c'est très important pour les acteurs sur place. Et là, à Paris en l'occurrence, les juges et les jurés ne connaissent rien du Rwanda, ni intellectuellement, ni physiquement, puisqu'ils se sont jamais rendus sur place. Et effectivement, se pose la question non seulement de la langue, mais la question de la connaissance des lieux. Puisque, par exemple, c'est posé des questions sur la disposition des barrières dans les quartiers. Et ce qu'on voit, par exemple, lorsque on approche un petit peu le grain de la langue, et quand les gens parlent des barrières, par exemple, au Rwanda, dans les gachacha, c'est que ces barrières ne sont pas statiques, à part les grosses barrières, donc à des points stratégiques.
Les barrières, expliquez-nous peut-être...
Alors,
il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, d'autant plus que voilà, c'est un sujet extrêmement lointain. Et c'est une des qualités d'ailleurs de votre livre, c'est-à-dire qu'il y a aussi des photographies. Vous avez vraiment reconstitué la topographie autour de cette commune. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé d'avoir concentré votre travail sur cette commune permet de rendre compte de l'aspect le plus saisissant de ce génocide, c'est-à-dire la proximité intime, sociale, affective, voire familiale, qui existait entre les victimes et les bourreaux. Donc voilà, cet aspect topographique est extrêmement, extrêmement important. Donc voilà, je vous redonne la parole pour les barrières.
Oui, précisément, ça donne toute son importance à la topographie, à la connaissance de la topographie. Alors, ce n'est pas une topographie statique. C'est justement l'essai que j'ai fait de reconstitution en allant sur les lieux avec des survivants et une juge gachacha. C'était la volonté, ma volonté était de reconstituer une géographie du génocide, hein, puisque le génocide, les massacres, donnent lieu à une géographie singulière. Et on a vu, par exemple, donc, pour reprendre l'exemple du procès Simbi-Kangwa, que les personnes au tribunal à Paris avaient peut-être des difficultés à reconstituer précisément cette géographie si singulière du génocide dans un quartier particulier, donc qui concernait les faits qui sont reprochés à l'accusé, et la perception que les acteurs avaient de cet espace, qui n'est pas du tout un espace statique, mais un espace mobile. Et par exemple, les barrières changent de place, hein, et se transforment en groupes de tueurs. Et c'est précisément cette mobilité au cœur des quartiers et des collines qui rend efficaces les massacres, puisque les tueurs bougent beaucoup, et ils sont très nombreux, pour traquer et assassiner leurs victimes.
Une des autres spécificités de ce génocide de proximité, c'est que les bourreaux peuvent donc facilement identifier les victimes, puisqu'elles font parfois partie de leur propre famille, mais aussi de localiser parfaitement les lieux de massacre, que ce soit des forêts, que ce soit des églises, que ce soit des rivières.
Oui, ce qui était très frappant, lorsque j'ai suivi ces gachacha et que j'ai fait le travail d'écriture qui a mené à ce livre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'intelligence des tueurs, au niveau le plus local. Alors il y avait la dimension populaire, si vous voulez, l'investissement de la population civile dans le génocide, a beaucoup intéressé les chercheurs en sciences sociales, mais jamais ils n'ont pas beaucoup intéressé aux pratiques, comment ce génocide avait été concrètement mis en œuvre. Et ce qu'on voit à travers les témoignages des tueurs, c'est qu'ils connaissaient parfaitement leur réseau social et leur environnement, encore une fois, topographique, et qu'ils se sont servis de ces connaissances sociales et topographiques pour accroître l'efficacité des massacres. Et que donc, il faut essayer de prendre en charge ce qui est moralement très difficile, mais il faut essayer de le voir et de l'analyser, c'est cette intelligence populaire du massacre qui, de nouveau, pose la question de l'organisation de ce génocide, qui n'est absolument pas désorganisé, mais au contraire très rationalisé, même si il a été pris en charge par des paysans illettrés sur les collines.
Mais c'est une autre question que vous abordez, c'est l'importance fondamentale donc, de la guerre de 1990 dans le déclenchement du génocide que vous avez accueilli tout à l'heure, mais aussi les liens entre les militaires et les civils, puisqu'apparemment les militaires ont fourni des armes notamment.
Oui, ça me semble être c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la période 90-94, qui me semble être mise à profit par les extrémistes Hutus, en particulier dans l'état-major des forces armées rwandaises, pour brouiller les frontières entre les mondes civils et militaires. Dans la vision ethno-nationaliste des extrémistes Hutus, tout civil Hutu est considéré comme un combattant potentiel pour la défense de la nation qui est exclusivement définie en termes ethniques.
De même qu'un Tutsi est considéré comme un...
Comme un combattant du FPR. Oui. Voilà, et tout comme le Tutsi revêt le masque d'une hostilité absolument irréductible. Et ce qui se passe avant le génocide, c'est qu'il y a un programme d'autodéfense civile qui est mis en place, dans lequel les forces armées rwandaises vont initier les civils au maniement des armes, de manière sommaire, mais néanmoins, des armes à feu vont être distribuées, et dans les programmes d'autodéfense civile, il est recommandé aux civils de fabriquer des armes de chasse essentiellement afin de lutter contre les infiltrations des ennemis tutsis. Donc il y a cette crainte obsidionale hein, de l'ennemi intérieur qui est à mon avis une des clés pour comprendre les massacres.
Mais qu'est-ce que ça nous dit sur la responsabilité du génocide ? Qui porte cette responsabilité ?
Eh bien, la responsabilité, c'est d'abord celle de l'État, hein, puisque c'est les institutions étatiques qui ont investi toutes leurs ressources dans le génocide. Là, à partir de 1994, c'est flagrant. C'est d'abord l'armée. Hein, on le voit aussi dans le livre. Hein, je montre comment, justement, l'État est présent, et notamment à travers les armes. Ce que disent les rescapés, c'est les armes à feu, ce ne sont pas les civils qui les ont apportées, ce sont les militaires. C'est une marque de l'État. Il y a aussi donc les procès de quelques édiles locales que j'analyse dans mon livre et qui montrent très bien cette impunité, ce contexte d'impunité que l'État offre au massacre, voire d'encouragement aussi. Donc au massacre. Donc il y a évidemment l'État rwandais porte une responsabilité première dans ces massacres. Pour autant. Les tueurs au niveau local n'ont pas répondu de manière univoque, automatique, aux ordres d'extermination.
Ils
ont
eux aussi. Et les militaires non plus, il y a eu...
Il y a eu des gens qui ont refusé, bien sûr, tout comme les civils. Donc c'est très intéressant dans ce procès du major Bishusha, donc dans la commune de Churangi. Et bien effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que on voit de quelle manière le massacre des civils tutsis domine sur les priorités de la guerre, puisque dans cet état-major local. Le major décide de s'amputer d'une partie de ses sous-officiers qui, eux, refusaient de participer au génocide. Donc quand une armée en arrive à s'amputer de ses propres membres, qui plus est, non pas des hommes du rang, mais des sous-officiers, pour mettre en œuvre le génocide, eh bien on est là dans une radicalité tout à fait nouvelle.
Qu'est-ce que l'histoire de la Shoah peut apporter aux personnes qui travaillent sur le génocide du Rwanda, d'un point de vue historique ou mémoriel, voire même en matière de justice, de manière de rendre la justice ?
Alors, en matière de justice, il n'y a pas eu de correspondance très, très forte entre les modèles qui ont été ceux de Nuremberg, peut-être pour la justice pénale internationale, puisqu'elle s'adosse à cette jurisprudence et à la Convention de 1948. Ce qu'on peut dire, c'est que juste en 1994, le souvenir de la Shoah n'a absolument pas joué dans la prévention qui aurait dû être faite.
D'un point de vue international.
Ouais. Puisque les Nations Unies étaient sur place au Rwanda et que, malgré tout, le Conseil de sécurité a décidé d'amputer cette force des Nations Unies des trois quarts de ses effectifs et que le génocide des Tutsis s'est perpétré sous les yeux de la communauté internationale qui n'a absolument pas réagi. Au moment des faits même, le souvenir de la Shoah n'a eu aucune utilité civique et politique. Maintenant, d'un point de vue historiographique, je dirais d'abord que c'est très important pour les jeunes chercheurs que la Fondation pour la mémoire de la Shoah les soutienne dans ces recherches. Et après, il y a... toute la littérature sur la Shoah aide à nourrir les réflexions sur le Rwanda, par exemple tous les travaux de Christian Ingrao sur la guerre à l'Est et les représentations de ces guerres radicales et définitives. Moi personnellement, m'ont beaucoup intéressé pour mon travail. Mais je pense que l'urgence historiographique à présent, c'est de travailler sur les singularités du génocide des Tutsis pour pouvoir mieux comparer justement avec la Shoah en voyant quelles peuvent être les similitudes et les spécificités de ces deux événements, parce qu'il y a un déséquilibre flagrant entre les historiographies l'historiographie qui est consacrée à la Shoah et celle qui est consacrée au génocide des Tutsis, puisque évidemment ça ne fait que 20 ans qu'il a eu lieu, mais en tout cas on travaille dans une communauté d'historiens ou avec les historiens qui travaillent sur la Shoah, c'est certain.
Il a aussi été question de créer un statut de juste pour les militaires qui avaient sauvé des Tutsis du massacre.
Alors le concept de juste n'existe pas pas au Rwanda en tant que tel, puisque c'est un concept qui est fortement lié à la Shoah. On les appelle au Rwanda Indakiemwa, donc les irréprochables. Et ça, donc il y a des reconnaissances des personnes qui ont sauvé les Tutsis au Rwanda. Il y a une association.
Pas seulement les militaires. Donc.
Pas seulement les militaires, même les civils. Il y a des personnalités Hutus qui ont même sacrifié leur vie, enfin à l'instar de ces militaires, mais d'autres aussi des civils pour sauver des gens. Et ils sont en général reconnus après enquête par une association des rescapés, Ibuka. Et donc il y a à chaque fois des enquêtes comme ça qui sont menées sur ces personnalités et ils ont toute leur place en tout cas dans les communautés locales puisque ici ces militaires et bien les rescapés les intégraient dans l'histoire du génocide à Shurangi en tout cas.
C'est important pour tenter de vivre ensemble à nouveau, parce que quand on lit votre livre, la situation semble beaucoup moins idyllique que ce qu'on peut entendre dans les médias. On a l'impression voilà, que Kigali s'est reconstruite, qu'il y a un essor économique exceptionnel et que d'une certaine manière ce passé que les communautés sont enfin réconciliées. Quand on lit les témoignages de votre livre, la situation semble beaucoup plus dure encore aujourd'hui.
Oui, parce que ce que disent les gens du génocide est tellement terrible que...
C'est-à-dire seulement un tiers des Tutsis ont
survécu dans la commune. Et
ce qui correspond à peu près aux chiffres
nationales, oui. Et les rescapés aujourd'hui, ils ne sont pas très âgés. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils ne sont pas très âgés. Il y a encore des enfants qui ont aujourd'hui 20, qui étaient enfants à l'époque, 20, 30 ans, voilà, c'est encore une mémoire extrêmement, extrêmement vive pour les survivants, c'est terrible. Donc il y a le monde politique, si vous voulez, tente des politiques de réconciliation. Alors oui, aujourd'hui, le Rwanda est un pays sûr, mais le souvenir du génocide ne peut pas s'effacer sur injonction politique. C'est impossible, d'autant que les rescapés vivent non seulement avec le souvenir de ce qu'ils ont vécu, mais maintenant de ce qu'ils ont découvert dans les gachacha et qui était arrivé au leur. Donc on imagine combien c'est difficile à vivre.
Je vous remercie beaucoup, Hélène Dumas, d'être venue.
Merci à vous.
Je rappelle donc que votre livre, Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda, vient de sortir aux éditions du Seuil, et que c'est un travail issu de recherches soutenues par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il y a également, oui, au mémorial de la Shoah, donc à partir du 10 avril, une exposition qui s'intitule Rwanda 1994, le génocide des Tutsis, qui sera accompagnée d'un cycle de conférences au mois de mai et de juin. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.